deux textes surprenants. Enfin, surtout le deuxième. Dans le premier, Amos critique ceux qui font mine de respecter les lois et les prescriptions religieuses, ou qui les respectent vraiment d'ailleurs, mais uniquement formellement, et qui n'attendent que de les avoir accomplis pour pouvoir se livrer à toutes sortes de malhonnêtetés. Amos, avec la fougue et la verve qui le rendra célèbre, vitupère contre ceux qui accablent le peuple de leur injustice, malgré leur respect formel des lois religieuses. C'est une dénonciation qui peut concerner encore aujourd'hui un certain nombre de gens, et qui sait, peut-être même parmi nous. Mais je pense que tout le monde sera globalement d'accord pour affirmer que les gens qui font ça sont tout à fait méprisables. Soit. Mais ce qui est vraiment surprenant, c'est le second texte, la parabole que raconte Jésus à ses disciples. Cette parabole fait suite à une controverse avec les scribes et les pharisiens sur l'accueil que Jésus réserve aux gens de mauvaise réputation. L'auditeur distrait ou un peu trop superficiel pourrait rapidement avoir l'impression que cette parabole dit exactement le contraire du message d'Amos. Qu'a-t-on effectivement dans cette parabole? Un gérant malhonnête qui est renvoyé et qui, parce qu'il truande encore davantage son maître, se voit par celui-ci félicité et par Jésus cité en exemple. Faut-il donc tricher sur les poids et mesures, malgré ce qu'avait dit Amos bien avant? Vous en doutez, ce n'est pas le propos de la parabole. Elle n'est pas une incitation à l'escroquerie, mais pour beaucoup de gens, elle reste incompréhensible. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourtant, elle est très simple à comprendre. Mais il faut avoir deux petits éléments en tête. Le premier, c'est que les intendants n'étaient pas payés pour leur travail. Ils devaient faire fructifier les biens de leur maître et ils se rétribuaient au passage, tel un courtier par exemple. La seconde chose est un peu plus complexe, mais à peine. Dans le judaïsme ancien, le prêt à intérêt sur les biens de consommation était interdit. On ne pouvait pas prêter intérêt de l'huile, de du blé ou quoi que ce soit d'autre qui serve la vie de tous les jours. Et je vais vous faire une révélation qui, à mon avis, ne va pas vous faire tomber de votre chaise de surprise. C'est que lorsqu'on interdit aux gens une source de profit important par une loi, et ces mêmes gens vont trouver assez rapidement un moyen de contourner la dite loi. Il y a des invariants à travers l'histoire ainsi. Alors comment procédait-on puisqu'il était interdit de mettre un intérêt? C'était très simple. L'emprunteur venait voir quelqu'un susceptible de lui prêter et il disait par exemple « j'ai besoin de 20 jarres d'huile ». Le propriétaire de la dite huile lui répondait « ben voilà tes 20 cruches, mais sur le reçu tu notes 25 ». Comme ça, on contournait la loi, tout le monde y trouvait un certain avantage, certains plus que d'autres évidemment, mais soit. Ainsi, notre intendant respectait la lettre et non l'esprit de la loi, et s'il venait être accusé, il répondrait ce que tout gestionnaire pris les doigts dans le pot de confiture répond. Oui, mais tout le monde le fait. Bon. Alors, avec ces deux données, vous comprenez que l'histoire devient bien plus facile à comprendre. L'intendant accusé, à tort ou à raison, on ne sait, ne sacrifie pas les biens de son maître. Il renonce à ses propres bénéfices. Et encore, pas tout à fait. Puisqu'il aurait été incapable de les réclamer, puisqu'il n'était plus gérant. Il ne renonce en fait à rien. Ce qui est admirable chez cet intendant, ce n'est pas sa gestion à la limite du détournement de biens, c'est l'intelligence dont il fait preuve pour se sortir de l'ornière. Il n'y avait qu'une seule chose à faire et il l'a faite. Il n'a pas perdu de temps à se plaindre, il n'a pas pleurniché, il a agi dans le très court laps de temps dont il disposait. D'ailleurs, il se pose des questions, hein, il prend « qu'est-ce que je vais faire? Je ne suis pas capable. » Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont pensé à la fameuse chanson reprise par Julien Clerc, « Travailler, c'est trop dur, Et voler, c'est pas beau. Demander la charité, c'est quelque chose que je peux pas faire. Et d'ailleurs, il conclut, donc la chanson conclut en disant qu'il vit sur l'amour et qu'il espère vivre vieux. Et bien, c'est un peu ce que va faire notre intendant. Alors, pas tout à fait dans le même sens que la chanson, mais il y a quelque chose quand même de similaire. Dans le court temps qui lui reste, l'intendant habile ou malhonnête, selon les traditions, va renoncer à quelque chose qui est déjà perdu, dans l'espoir d'acheter quelque chose dont il pourra profiter. C'est-à-dire qu'il va utiliser son peu de pouvoir pour rendre service à des gens qui, il l'espère, lui en seront reconnaissants. C'est très malin, mais c'est aussi un pari très osé. Tabler sur la reconnaissance des gens, la reconnaissance n'est pas du tout une vertu largement partagée. Il y a même des gens qui vous en veulent de leur avoir rendu service. Mais au moins, il s'est trouvé une porte de sortie. Il va essayer de vivre de l'amour, pour reprendre les termes de la chanson, qu'il aura acheté pour essayer de vivre vieux. Décidément, le parallèle avec la chanson n'est pas si mal. Le maître, dans la parabole, est admiratif. Joli coup, chapeau bas. Est-ce que ça va marcher? Ça, on ne sait pas. La parabole ne le dit pas. Simplement, nous, voilà. Qu'est-ce qu'on va pouvoir tirer de cette histoire? Que pouvons-nous faire d'un tel passage biblique, d'un tel texte? Alors, soyons clairs, ce n'est pas une parabole du royaume où il faut identifier qui je suis dans la parabole, qui est Dieu dans le récit. Dans cette histoire, le maître est un maître, l'intendant est un intendant, il ne faut pas forcément chercher plus loin. Jésus illustre ici l'habileté des gens du monde à interagir entre eux pour de petits arrangements dont ils sortent tous peu ou prou gagnants. L'un gagne de la reconnaissance et les autres une remise de dette. Même le maître n'y perd rien finalement. Et c'est la première conclusion de l'histoire, une constatation. Les enfants de la lumière n'agissent pas entre eux avec la même intelligence, avec le même à-propos, avec la même créativité. La phrase conclusive de Jésus demeure surprenante. « Eh bien, moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. » Elle est même un peu choquante, cette phrase. Elle laisserait entendre qu'on peut acheter des amis, bon déjà, et surtout acheter son salut dans les tentes éternelles. Ben oui, dans un certain sens, vous en doutez, dans un certain sens. Les versets qui suivent la parabole, qui terminent notre lecture, ne font pas partie de la parabole. Mais Luc a jugé bon de les mettre là pour deux raisons, à mon sens. La première, c'est probablement une volonté d'interdire une lecture trop premier degré de la parabole. Elle n'est pas là pour nous inviter à être malhonnêtes. D'où les remarques insistantes sur la nécessité d'être honnête, y compris avec l'argent malhonnête. Habile, mais honnête. Voilà ce que nous devrions être. L'évangéliste Matthieu résume cela en une formule connue. Soyez prudents comme des serpents et ingénus comme les colombes. Le mot ici traduit par prudent est le même mot grec que celui utilisé pour décrire l'habileté du gérant. Et si nous admettons que, dans la constatation que fait Jésus dans le récit de Luc, nous soyons à la fois les fils de ce siècle, les enfants de notre époque, et les enfants de la lumière, les disciples du Christ, Jésus nous interroge. Pourquoi ne mettons-nous pas autant d'énergie, de ressources, d'ingéniosité, de créativité pour améliorer nos vies spirituelles que nous en mettons pour notre vie matérielle? Pire encore, pourquoi n'arrivons-nous pas à nous entendre pour progresser et nous aider mutuellement dans nos vies spirituelles comme nous arrivons à nous entendre, à trouver des arrangements de notre vie de tous les jours? Et je terminerai par une considération à propos de ce fameux argent injuste, puisque c'est le deuxième point qui lit la parabole à la suite des paroles de Jésus. Alors qu'on soit clair, j'aime l'argent comme tout le monde, et j'en ai autant besoin que quiconque. Mais dans le texte, Jésus colle à chaque fois au mot « argent » une épithète qui signifie injuste ou qui crée du tort. traduit par malhonnête ici, mais injuste ou qui crée du tort est plus littéral. Et ça, on ne peut pas l'ignorer. D'autant plus qu'il n'emploie pas un neutre pour désigner la monnaie. Il n'emploie pas un mot argent ou... Non, il emploie le mot mammon, ou mammon, en gros, qui est la personnification de l'argent, qui est, dans la mythologie, le démon de l'argent. L'argent comme puissance agissante. Cet argent que vous croyez posséder, mais qui en fait vous possède. Et comment faire pour ne pas être possédé par l'argent? Certains ont choisi de le mépriser, de le détester, de s'en passer. Mais je ne suis pas sûr que ce soit efficace. Parce que bien sûr, on peut être obsédé par ce qu'on aime, qu'on croit aimer. Mais on peut tout aussi bien être obsédé par ce qu'on déteste ou croit détester. Ça demeure une aliénation. Non, le seul moyen de profaner l'argent, et par profaner, j'entends lui retirer son statut de divin, c'est l'utiliser pour faire ce pour quoi il n'est pas conçu. L'argent est fait pour échanger des biens, des services. C'est quelque chose de très pratique. Plus facile d'acheter son pain en amenant quelques pièces de monnaie ou sa carte bleue, plutôt que de devoir amener des œufs ou un bout de lapin. Mais il y a un acte qui est contraire à la nature même de l'argent. C'est le don. Donner véritablement, pas pour acheter quelque chose ou pour obtenir quelque chose, même matériel, mais donner réellement, c'est le moyen de profaner l'argent, de lui rendre son simple statut d'outil. Et c'est ce que sous-entend Jésus lorsqu'il nous enjoint d'utiliser notre mammon injuste, intelligemment, pour nous faire des amis, afin d'être accueillis dans les tentes éternelles. Vous me répondrez avec raison que si on dépense son argent pour obtenir quelque chose, surtout de spirituel, on confère à cet argent des pouvoirs divins, celui d'assurer son salut. Et c'est bien là tout le paradoxe. Comment, évidemment, un combat spirituel est toujours sur une ligne de crête. Donner pour obtenir quelque chose n'est pas vraiment donner. Le don véritable est un renoncement, mais un renoncement joyeux. Il n'a pas de conséquences prévisibles. Il n'a pas de résultat assuré. Tout comme l'intendant n'est pas assuré d'être reçu par ceux à qui il a remis leur dette. En conclusion, notre vie spirituelle, trop souvent, ressemble à une routine, à une acceptation, à une soumission au destin. Parfois, nous prenons nos malheurs pour des épreuves que Dieu nous envoie, au lieu de les combattre. Jésus, quant à lui, nous invite non seulement à l'honnêteté, bien évidemment, mais à être intelligent, rusé, voire malin, créatif, à utiliser intelligemment nos ressources pour améliorer notre vie spirituelle. Individuellement, certes, mais surtout ensemble.